cours de philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe, le 21 octobre 93 à Saint-Jean-d'Arc. La vie sensible, suite du cours de l'an dernier, les passions et la vie de l'esprit, intelligence et volonté.
On commence la philosophie du vivant. Et je crois que c'est bon toujours de comprendre cette démarche philosophique qui implique de fait 6-7 dimensions. C'est un fait. Philosophie de l'art, du travail. L'homme transforme l'univers. Philosophie de l'éthique, de la morale. L'homme face à l'homme. Par sa connaissance et son amour pour l'homme. Philosophie de la coopération. On forge une communauté humaine. Ceci, à travers cette relation qui est antérieure à l'homme. Ce n'est plus la matière que l'homme transforme, mais la matière qui est devant l'homme, antérieure à l'homme, et qui peut être considérée comme ce qui limite l'homme et en même temps est en communion avec lui. Tout le point de vue de la philosophie, de la matière, de la nature, et de la nature non vivante de notre univers. L'autre relation avec tous les vivants. L'homme roi de tous les vivants que je connais, que j'expérimente. La dernière montée très verticale de la philosophie première qui conduit à se poser la question de l'existence d'un être premier. Tout ce grand regard sur l'être premier. Et puis les deux attitudes réflexives, critiques, logiques. Au fond, c'est ça qui est de très difficile dans la philosophie, c'est que tout se tient. Vous voyez, la réalité à laquelle on vient tout le temps, c'est l'homme. Tout le temps. Mais on le regarde sous des aspects différents. Et vous avez de fait 7 dimensions dans l'homme. Et toute cette partie de la philosophie, c'est pour découvrir en définitive la personne humaine dans ces 7 dimensions. Alors, ça vous oblige toujours de bien préciser ces aspects distincte sous laquelle on regarde l'homme. Et ça vous fait comprendre la différence d'un raisonnement analogique qui n'est pas un raisonnement dialectique. Ce serait très intéressant de voir comment s'organise la philosophie dans une perspective réaliste appliquant l'analogie et une perspective dialectique idéaliste à la manière de Hegel, à la manière de Platon aussi. Platon, Plotin, Hegel. Faut y arriver petit à petit, faut du temps, hein. Parce que c'est vrai, c'est la réflexion philosophique doit être ultime et en même temps première. semblera toujours, par rapport aux savants, quelque chose de naïf. Faut accepter. Faut pas s'inquiéter de ça. Faut leur dire que l'homme est naïf comparativement à la science. Et que la science ne donne que certains aspects. On n'aurait que la science, on ne connaîtrait pas l'homme, parce qu'on ne connaîtrait pas l'esprit. Et le philosophe opte pour la connaissance de l'esprit, avant tout. Et il dit à tous les autres, si vous ne connaissez pas l'esprit, vous ne connaissez pas vraiment l'univers, le corps de l'homme, l'activité morale, et tout. C'est toujours l'esprit qui est étudié en premier lieu, mais l'esprit dans son réalisme humain, avec sa manière d'être humaine. Et c'est pour ça qu'il est bon, voyez, de prendre ces diverses matières. Je sais très bien, on pourrait dire qu'on consacre le premier trimestre à la philosophie du vivant entièrement. On ferait que ça. Je crois que c'est préférable, c'est plus difficile. Parce que ça vous oblige tout le temps de changer de registre. Changer de vitesse, quoi. De registre, de niveau. Et quand vous l'avez fait 100 fois pendant l'année, à la fin, vous commencez à savoir le maniement. C'est vrai, tout de suite. Et ça vous permet de mieux saisir toute la différence entre la philosophie et la science moderne. Les sciences humaines, la psychologie. Et toi, la philosophie du vivant, c'est un autre regard. Cet autre regard se caractérise comment? En premier lieu, par le fait que la première chose que je découvre, c'est l'âme. Le péripsuchès au sujet de l'âme. C'est comme ça qu'Aristote nous montre cette connaissance du vivant. De ce vivant qui est l'homme. Le seul vivant que je connaisse vraiment, c'est l'homme. Les petits singes, vous les connaissez pas très bien. Alors, les bovins, j'allais dire encore moins, ou peut-être mieux, parce qu'on prend leur lait. Il y a une certaine assimilation. C'est vrai, on se nourrit moins du singe. Tandis qu'on connaît plus ce genre d'animaux domestiques. Et on les connaît pas. Vous interprétez tout le temps quand vous regardez le chien. Oh, ce qu'il m'aime, ah oui. Je t'assure qu'il t'aime. Vous pouvez en être sûr. Qu'est-ce que c'est que cet attachement? Amitié honnête, amitié utile, amitié délectable. Posez-vous la question. C'est important de voir que la philosophie doit tout regarder et tout critiquer. Tout critiquer, comprenez bien. Je mets les limites à la critique. Je ne peux pas critiquer la contemplation. Celui qui met la critique avant la philosophie ne contemple jamais. C'est la mort à la contemplation. Il faut être naïf pour contempler. Dans un monde comme le nôtre, d'une naïveté substantielle qui rejoint la vie de l'esprit. L'esprit est fait pour contempler. Il est fait pour contempler. Il est fait pour toucher la terre. Alors, première question de la philosophie du vivant, qui est la philosophie de l'homme. Qu'est-ce que c'est que l'homme comme vivant? Et la première première chose que je découvre par une induction. L'existence d'une âme spirituelle, et en même temps d'une âme qui informe le corps. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire, découvrir ça. C'est la même âme. Certains philosophes ont dit deux âmes, mais ça n'explique pas du tout ce qu'est l'homme. Il y a une unité profonde en tout moi-même, en ma vie intellectuelle et ma vie biologique. C'est pour ça que le vieil adage, un saint triste est un triste saint, et c'est vrai, parce que ça montre que tout se tient. Et que je sais qu'il y a l'unité. Si je suis trop fatigué, il y aura quelque chose qui, dans mon intelligence, ne pourra plus manœuvrer avec autant de facilité, sauf si j'ai un habitus de métaphysique. Alors je peux faire de la métaphysique même quand je suis fatigué. L'habitus fait ça. L'habitus consolide, voyez, l'intelligence, l'habitus de sagesse. Parce que c'est le véritable habitus de l'intelligence, c'est l'habitus de sagesse. Et c'est celui à qu'on cherche. S'il faut faire ces exercices-là, c'est pour que acquérir progressivement l'habitus de sagesse. Au niveau sagesse philosophique. Alors, la première chose qu'on doit découvrir, c'est l'existence de l'âme spirituelle, qui n'est pas séparée du corps, qui est une avec le corps substantiellement. Mon âme est présente à tout mon corps, et elle anime tout mon corps. Je ne peux pas la séparer. Même quand je dors, je ne sais pas ce qu'elle fait. Quand je dors, parce que mon âme ne dort pas. Mon âme végétative dort, mais mon âme spirituelle. Alors, qu'est-ce qu'elle fait pendant ce temps-là? J'ai des rêves, mais les rêves, c'est pas l'âme spirituelle, c'est l'imagination. Ça provient d'un mauvais repas pris la veille. On a essayé de m'empoisonner, on n'est pas arrivé. Là, et la compensation, c'est justement de rêver à des brigands. On a eu des rêves curieux. Puis petit à petit, les rêves deviennent moins difficiles, moins tragiques. Les cauchemars disparaissent. Mais mon âme spirituelle, elle est présente. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Où est-ce que vous l'avez mise avant de dormir? Mais, si vous avez une âme spirituelle et que vous êtes religieux, vous la remettez auprès de Dieu. Si au contraire, vous n'y croyez absolument pas, au bout d'un certain temps, l'esprit disparaît. Et vous ne voyez plus la distinction d'âme et du corps. On en est là, au degré de notre civilisation. La réflexion que je vous ai déjà dite, d'un philosophe chrétien, qui m'a dit, l'âme n'est plus sur le marché philosophique. Là, j'ai dit, il faut en parler doublement. Pour tous ceux qui n'y croient plus. La distinction de l'âme et du corps est une distinction fondamentale au plan philosophique. Mais je crois que la grande philosophie de Platon et d'Aristote, ce sont des philosophies de l'âme. Au sens très fort. Et que d'une certaine manière, je pourrais, voyez, ramener tout à cette philosophie de l'âme. C'est vrai, parce que chaque partie de la philosophie contient toutes les autres d'une certaine manière et relié à toutes les autres. Et vous profitez, vous allez plus loin en philosophie éthique. Il y a une répercussion immédiate sur la philosophie du vivant, sur votre âme. Parce que c'est votre âme qui est la source de toute morale, votre âme spirituelle. Vous découvrez l'âme et vous pouvez avoir une certaine expérience de l'âme. Et aujourd'hui, c'est très important pour tous ceux qui nient l'âme. L'expérience de l'intériorité, de votre vie intérieure. Votre vie intérieure est spirituelle. Et votre vie intérieure, c'est la vie d'amour et c'est la recherche de la vérité. Et ça, vous pouvez l'expérimenter. Et en expérimentant cette recherche de la vérité et cette soif d'aimer, vous touchez d'un toucher intellectuel votre âme spirituelle. Elle est présente à vous. C'est très très important ça. Parce que vous ne voyez pas votre âme, et cependant, vous pouvez avoir une connaissance affective de votre âme. Il faut développer ça. Parce qu'il y a une tentation permanente aujourd'hui de ne plus s'aimer. Des quantités de jeunes ne s'aiment plus. C'est pour ça qu'ils se suicident. Si on s'aimait plus, on ne se suiciderait pas. Ils veulent disparaître. Parce qu'ils ne s'aiment plus ou parce qu'ils ne sont plus aimés. Mais les deux choses se tiennent. Si on s'aimait plus, on attire plus l'amour. Et quand on est aimé, on s'aime plus. Il y a une maladie aujourd'hui, la maladie de l'espèce humaine, avec le nombre de suicides qu'il y a. Il faut être attentif à ça, du reste, au point de vue philosophique. Il y a la philosophie de la mort. Ça fait partie de la philosophie du vivant. Et la philosophie du vivant doit comprendre qu'est-ce que c'est que la mort. Séparation de l'âme et du corps. Alors, si on ne voit pas la distinction entre l'âme et le corps, qu'est-ce que c'est que la mort? Un phénomène de vieillissement. On se replie sur soi. On sait que quand on vieillit, on se replie sur soi. De plus en plus. On n'est plus accueillant vis-à-vis des autres. Parce qu'on voit tous les soucis qu'on porte, qui sont trop lourds et qui vous accablent, et qui deviennent comme quelque chose d'insupportable et insurmontable. Donc par l'intériorité, vous avez une connaissance affective de l'âme. Ça, c'est très important parce que, comme nous le verrons à propos de la substance, il faudra voir à ce moment-là les rapports de l'âme et de la substance. C'est pour ça que je ne les traite pas ici maintenant, puis on l'a vu l'année dernière. Mais c'est très important de comprendre que le premier problème philosophique du vivant, de l'homme vivant, c'est la distinction d'âme et du corps. Et ça, il faut maintenir ça à travers tout. Et le philosophe est obligé de se poser la question. Pourquoi? Parce que les traditions religieuses, celles de l'Inde, ont donné très nettement la distinction de l'âme et du corps. Alors, est-ce que c'est mythique? Est-ce que c'est purement symbolique? Ou est-ce que c'est vrai? Et si vous voulez être une personne consciente, d'être une personne humaine, vous devez répondre à cette question. Pas seulement dire « Oui, j'ai le sentiment d'avoir une âme. » Non. Pouvoir, à la face du monde, en face de biologistes positivistes, leur montrer que leur biologie ne conduit pas nécessairement à la négation de l'âme. C'est faux. C'est le positivisme qui fait ça. Donc c'est pas scientifique de nier l'âme. Ce qui est scientifique, c'est de dire, avec mes méthodes scientifiques, je ne peux rien dire de l'âme. Ça, c'est vrai. Mais on ne peut pas la nier. C'est pas parce que votre méthode scientifique n'atteint pas l'âme que l'âme n'existe pas. Votre méthode scientifique n'est pas adéquate à ce que vous êtes. Absolument pas. Votre méthode scientifique explique quelques aspects et vous devenez de plus en plus un spécialiste. Alors vous étudiez comme spécialiste tel cas anormal, parce que c'est la spécialité vient toujours du côté du mal. Et c'est vrai, la biologie pathologique, elle se spécialise dans toutes les maladies. Tandis qu'au contraire, une biologie qui conduirait vers la philosophie ne se spécialise plus. Qu'est-ce que c'est qu'une maladie pour le philosophe? C'est quelque chose qui ne va plus comme ça devrait aller. C'est un manque, c'est une privation. Or, la privation ne se comprend pas par elle-même. C'est négatif. Vous ne comprenez que par l'aspect positif. Être aveugle, ça ne s'explique pas par soi-même. Ça s'explique par celui qui voit. Et celui qui a vu et qui devient aveugle sait très bien. Puis celui qui est aveugle de naissance ne le sait pas. Et c'est les autres qui lui disent, tu es aveugle. Il serait au milieu d'aveugles. Il ne saurait pas qu'il est aveugle. La privation. C'est la même chose pour la maladie. Toute maladie est une privation. Donc la première chose, c'est de comprendre la santé de l'âme et du corps. Et que la santé relève de l'âme en premier lieu. Et de plus en plus, on le sait. Votre âme est triste. Vous avez des stress, comme on dit aujourd'hui. Hein. Faut étudier ce que c'est que le stress. Vous avez des stress. Alors ça peut produire des tas de choses. On sait qu'aujourd'hui, tous les cancers proviennent de ça. Donc faites attention, ne provoquez pas des stress. Vous êtes coupable du cancer de l'autre. Faites attention. C'est pas vrai de dire ça, mais ça fait rien, on le dit. Alors il faut étudier ce que c'est que la santé. L'âme et le corps, la santé est humaine. Parce que la maladie n'est pas humaine. Et le philosophe peut classer ça. Vous étudiez ce fait aussi que l'âme s'exerce dans l'homme, exerce sa vitalité, sa source, de façon très différente. Depuis la vie végétative jusqu'à la contemplation. Et c'est toujours vous, et c'est toujours votre âme humaine. Votre âme humaine assimile, respire à travers le corps, en se servant du corps. Votre âme humaine contemple, en se servant encore du corps, mais d'une manière beaucoup plus subtile, d'une manière silencieuse. Et c'est vrai, d'une manière silencieuse. Si vous êtes trop dans l'agitation, c'est difficile de contempler. Vous voyez, le dépassement de l'âme spirituelle sur le mouvement. Pour que l'âme spirituelle puisse émerger. C'est comme ça qu'on distinguera les trois degrés de vie. Les trois degrés de vie qui proviennent de toute une tradition religieuse, les pythagoriciens. Je ne sais pas si dans l'Inde il y a les mêmes trois degrés de vie. La distinction de l'âme et du corps, sûrement. Platon l'a ramené de l'Inde. Et les premiers philosophes grecs n'en parlaient pas. C'est avec Platon que la distinction de l'âme et du corps arrive. C'est pour ça que ceux qui nient la distinction de l'âme et du corps, en disant ça c'est thomiste, ça c'est Aristote, il faut leur dire non, c'est platonicien. C'est Platon, le premier. Et Aristote a reçu ça de Platon, que c'était très intéressant de s'intéresser à l'âme. Et vous devez recevoir ça aussi d'Aristote et de Platon. C'est très intéressant de s'adresser à l'âme. Quand on s'adresse au corps, en premier lieu, c'est pas très drôle. Tandis que quand on s'adresse à l'âme en premier lieu, oh, c'est très différent. Et votre corps devient aimable en raison de votre âme. Et vous respectez votre corps à cause de votre âme. Et plus votre âme émerge, plus vous respectez votre corps comme un instrument qui vous permet d'exercer votre vie dans différents sens. Donc, on étudie en premier lieu la vie végétative avec la procréation qui exprime quelque chose de tout à fait particulier. Le vivant est capable d'être source de vie. Ceci se voit même chez les animaux. Et ceci se voit chez l'homme d'une manière nouvelle. En ce sens que l'homme est capable d'accepter ou de refuser. Mais il ne peut pas refuser n'importe comment, il ne peut pas accepter n'importe comment. La vie végétative est une vie qui est très déterminée par le corps. Je ne peux pas en faire n'importe quoi. Je dois respecter ces déterminations du corps. Il est évident que le philosophe regarde le corps d'une façon très différente que le biologiste. Le biologiste regarde le corps pour lui-même. Le philosophe regarde le corps dans la lumière de l'âme. Tandis que regarder le corps pour lui-même, c'est le regard du biologiste, qui regarde la complexité des organes, qui regarde leur interférence mutuelle, qui regarde leur corruptibilité et la fatigue qui peut arriver. Alors il y a une chose très curieuse, c'est qu'Aristote n'a pas étudié les nerfs. Alors évidemment, tout ça, son regard sur l'âme est faussé. Dira-t-on? Eh bien, il faut justement saisir que je saisis l'âme par elle-même et je saisis le corps par l'âme. Au plan philosophique. Quand je disais ça à Fribourg, dans un séminaire où on voyait le Péripsuchès, je montrais cette vision très originale d'Aristote, qui suit celle de Platon, du reste. Pour Platon aussi, le corps n'a d'intérêt que par rapport à l'âme. Et même Platon est beaucoup plus dur qu'Aristote. Aristote considère que dans le corps, il y a une certaine intelligibilité grâce à l'âme. Pour Platon, rien du tout. Du moins, le premier Platon. Puisque le corps est le tombeau de l'âme. Alors quand je montrais que, de fait, toute l'intelligibilité du corps humain vient de l'âme, il y avait un étudiant espagnol, un Guzman, donc le même nom que Saint-Dominique, qui faisait une thèse de biologie à Genève. Il était venu à Fribourg de passage, comme ça. À la fin du séminaire, il est venu me trouver, il me dit, c'est terrible alors, cette science biologique, dont on ne dit pas un seul mot sur l'âme, et vous dites que toute l'intelligibilité du corps vient de l'âme. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors, je dis, oui, justement, je vous montre que le corps est intelligible grâce à l'âme. Si vous ne touchez pas l'âme, vous pouvez regarder les effets de l'âme à travers le corps. Il est intelligible, il y a donc des lois pour le vivant grâce à l'âme. Vous n'en parlez pas au niveau sciences biologiques. Mais si vous réfléchissez 2 minutes, vous voyez que l'intelligibilité du corps, c'est le corps humain. Par le corps humain, le corps des animaux. Regardez analogiquement la différence entre le poisson et l'homme. La colonne vertébrale du poisson et la colonne vertébrale de l'homme. C'est assez spécial, assez particulier. Et ainsi de suite. Aristote a fait un traité des animaux. Pour ceux qui sont très forts en biologie, qui connaissent bien la biologie, c'est un traité remarquablement intéressant, qui semble d'une naïveté prodigieuse, mais qui est extraordinaire, parce que c'est justement en fonction du corps humain qu'on étudie le corps des animaux. Toujours. Et philosophiquement, c'est juste. Je ne veux pas dire que toutes les conclusions d'Aristote sont justes, hein, parce que la science connaît beaucoup mieux la cause matérielle. Et c'est la cause matérielle que la savante. Et donc, si j'étudie beaucoup la cause matérielle, je ne vais pas arriver à une situation limite qui montre que ce que dit Aristote n'est pas juste. Alors, ça ne veut pas dire que le péripsychèse n'est pas juste, puisque tout repose sur la connaissance de l'âme, et que la science biologique ne peut rien dire sur l'âme. Donc, tout ça reste vrai. Mais dans son application, et surtout dans l'aspect pratique. Dans l'aspect pratique, Aristote peut servir, même dans un aspect pratique, si vous regardez l'homme tout entier. Mais si vous êtes spécialiste du nez, l'étude d'Aristote ne vous avancera pas beaucoup. Si vous êtes spécialiste de l'œil, ce que dit Aristote ne vous aidera pas beaucoup. Mais peut-on être spécialiste d'une partie sans connaître le tout? On peut faire d'immenses erreurs en ne regardant que la partie. Quand il y a un tout organique, l'intelligibilité de la partie ne peut se faire que par le tout. Et on sait ça, on le sait très bien. Les spécialistes, c'est merveilleux au point de vue de la connaissance, c'est affreux au point de vue pratique. Je me souviens de la réflexion de Jean Vanier qui avait été malade pendant il y a quelques années. Il avait été mis. Et heureusement qu'on venait le nourrir, parce que on ne le nourrissait pas. Comme il est grand et il avait envie de manger selon sa grandeur. Et on le nourrissait comme un petit nain. Alors il dépérissait. Il aurait été plus longtemps, il aurait été malade partout, dépéri. Et on voulait guérir la spécialité. Je prends cet exemple, mais vous savez bien que pour le cancer, c'est la même chose. Il y a un acharnement thérapeutique quelquefois sur la spécialité, sur telle maladie, qui fait que on meurt parce qu'on n'a pas regardé le tout. C'est tellement important ça. Vous voyez, là, le philosophe rappelle au médecin quelque chose d'extrêmement important. C'est très très bien d'être spécialiste, mais attention, le spécialiste peut te tuer. Parce qu'il ne voit que ça. Il y a l'unité de la vie organique, l'unité de la vie végétative. Et dans la vie végétative, la procréation apparaît comme la finalité. Source de vie pour un autre être. Après la vie végétative, on entre dans la vie sensible. Qu'est-ce que c'est que voir? Et dans la vie végétative, la science biologique peut dire beaucoup de choses. sur l'estomac, sur le foie, sur les reins, sur l'œil. Ah, mais l'œil, on entre dans la vie sensible. Et c'est la même chose pour la vie sensible. La science biologique peut dire des choses étonnantes sur la cause matérielle, l'organe. Mais comment je vois? Qu'est-ce qui fait la différence entre la vision et le toucher? La science biologique peut regarder les effets. Elle ne me dira pas ce que c'est que la vision, ce que c'est que la connaissance de la vision, ce que c'est que la connaissance du toucher. Là, c'est le philosophe qui voit que l'âme, habitant le corps, habite le corps différemment au niveau de la vie biologique, de la végétation, de ma digestion, et au point de vue de l'œil. L'âme émerge plus dans l'œil que dans l'estomac. Il y a une émergence plus grande dans ma vie sensible. Et plus l'émergence se fait grande, plus la science dit moins. Ça, c'est très intéressant aussi à noter, y à voir, y à constater. De sorte que ma connaissance, comme connaissance, le philosophe seul peut dire ce que c'est ma connaissance. Le savant dira jusqu'où va la vision. Qu'est-ce qui peut occasionner une diminution pour ma vision? Qu'est-ce qui peut arrêter ma vision? Condition sine qua non pour qu'il voit. Alors la condition sine qua non, c'est toujours la causalité matérielle. Ah, je peux devenir un spécialiste et être très calé. Le philosophe, lui, ne s'attarde pas tellement à la cause matérielle. Pas tellement, mais il s'intéresse. Il voit que la cause matérielle est essentielle au vivant, à l'homme vivant. Et que si mes organes physiques et biologiques se fatiguent, ben, il ferait moins. Et donc il y a une fatigue du corps qui se fait sentir à travers la vie sensible, d'une façon plus immédiate encore qu'à l'égard de ma vie végétative. Quoique dans la vie végétative, c'est visible la croissance d'un être. Tant qu'il est dans la croissance, il est un grand vivant. Il atteint son sommet, puis après il décroît. Alors il perd de vitesse. Et on peut très bien sentir cela. Comme on peut très bien, dans sa vie sensible, voir que la vie sensible, elle aussi, connaît un devenir par la cause matérielle. Elle connaît un sommet. Et puis après, ça décroît. Ça décroît à cause de quoi? À cause de la fatigue de l'âme. Mon âme a tellement d'étendue de bêtises qu'elle en a assez, qu'elle ne veut plus écouter toutes ces bêtises humaines. Non, c'est pas ça. C'est la fatigue du corps. C'est le corps qui diminue. Parce que si avec mon âme, j'écouterais de mieux en mieux. Mais le corps est là. Il y a un organe sensible. Et l'organe sensible vieillit. Comme le corps. Il n'a pas le privilège de demeurer intact. Alors là encore, vous voyez, la science me dira beaucoup de choses sur, entre autres, sur l'œil. C'est extrêmement intéressant de voir. Un véritable opticien qui connaît parfaitement l'œil, de regarder votre œil et toutes les anomalies qu'il y a dans votre œil. Et on va encore plus loin aujourd'hui, puisqu'on découvre dans l'œil tout ce qui se passe à l'intérieur. Votre digestion mal faite se répercutera sur votre œil. Et au contraire, votre digestion bien faite vous permettra d'avoir une vision claire et nette. À côté de la vie sensible, la connaissance sensible, il y a tout l'aspect affectif. Alors là, c'est très curieux, la science biologique ne me dit plus grand-chose. Oui, les stress. Les stress, hein, oui. Vous voyez, les stress, hein, ça ne dit pas grand-chose positivement sur mes passions. Mais si j'ai des stress, c'est à cause de mes passions. Alors qu'est-ce que c'est que cette partie affective, sensible? C'est ce qu'on a appelé les passions. Les passions, c'est tout l'aspect affectif, sensible, qui existe en moi, à partir de ces connaissances sensibles. Alors là, il y a des stress. Puisque il y a des passions qui dilatent, pas l'œil, hein, mais qui dilatent le cœur. On peut dilater, pour dilater l'œil, vous savez bien, il y a des procédés techniques qui font que subitement votre œil est extraordinaire. Et alors on voit dedans. Il n'y a que les mères qui peuvent saisir dans l'œil de l'enfant s'il ment. Mais ça, c'est un regard affectif. C'est pas scientifique, ça. Dès que le savant lui dira, vous avez quelque chose à l'estomac, en regardant l'œil, indépendamment de toute affectivité. Alors le côté affectif, les passions. Et alors, ce qui serait intéressant, c'est de voir à partir de quel moment va naître la psychologie. Parce que c'est récent, la psychologie. Aristote se contentait de la philosophie du vivant. Et les stoïciens aussi. C'est les modernes qui regardent le point de vue psychologique, qui est l'aspect subjectif. C'est la réaction affective que je peux avoir ou que je n'ai pas. C'est bon, je suis un être très passionnel, au contraire je suis un être qui met très loin la passion, parce que la passion est dangereuse. Donc il faut la neutralité absolue, il faut l'objectivité absolue. Mais ce qui est intéressant, c'est sûr, et qui est encore une fois une abstraction. La réalité fait que dès que je connais, il y a un état affectif en moi. Un état de mauvaise humeur ou un état de bonne humeur. Je peux distinguer